Passion sous la Rédemption, le 23 mai 1993, à Rimont par le Père Philippe, 18e conférence.
Je vais répondre, du moins essayer de répondre aux questions posées. Vous dites que l'orgueil est le plus grand des péchés. Il n'y a pas que moi qui le dis. Toute la tradition chrétienne. Pourtant, n'est-il pas une réaction naturelle face à la souffrance? Non, la réaction naturelle à la souffrance, c'est d'être scandalisé. C'est pas la même chose. Qu'on soit scandalisé devant la souffrance, oui. Je comprends. C'est normal. Scandalisé, c'est justement de ne pas pouvoir comprendre d'abord. Et ça semble en opposition vis-à-vis de Dieu infiniment bon. Là, il y a comme une espèce de contradiction qui fait qu'on est scandalisé. Alors, le scandale peut conduire à la révolte. Le scandale peut conduire à un appel, à une prière. Demander le secours. Vous voyez ? C'est l'usage qu'on fait du scandale. Mais ne jamais être scandalisé devant ce qui se passe. Vous voyez ? Les injustices aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, ça doit nous scandaliser. Si on n'est pas scandalisé par ça, ben, c'est triste. Ce qui se passe dans ces guerres fratricides, on doit être scandalisé devant ça. Comme on était scandalisé pendant la guerre avec Hitler. Point de vue du massacre des Juifs. On est scandalisé, vous voyez. C'est pas une vertu de ne jamais être scandalisé. C'est un manque d'intelligence. Et chacun d'entre nous, on est scandalisé sur certains aspects. Là où on est plus averti, où la recherche de vérité se fait plus pénétrante. Et là, on est scandalisé devant des injustices, dans le mensonge. Oui. Les textes bibliques nous montre des anges intervenant auprès des hommes comme messagers de Dieu, ou nommés anges de Yahvé, pour indiquer action de Dieu. Oui, c'est très difficile à préciser exactement. Ce sont des envoyés, angelos, en grec c'est net. Ce sont des envoyés. Et je crois, vous voyez, dans l'Apocalypse, quand on parle envoyé de Dieu, quand on parle des anges tout le temps, ce n'est pas nécessairement ce que nous appelons des anges. Je prends un petit exemple. Je ne dis pas que l'interprétation est nécessairement juste. Mais je dis qu'il me semble que cette interprétation, autrement je ne vous la donnerais pas. Si j'étais persuadé que c'était, ça n'avait pas de sens. Dans l'Apocalypse, voyez, un texte. Vous savez que j'aime beaucoup l'Apocalypse. Parce que c'est un très grand livre. Il faut le lire, pas le soir. Parce que vous passerez toute la nuit à le lire, et vous risquerez d'être un peu angoissé. Mais c'est un très grand livre, il faut le lire. Là, il faut le lire une première fois, on n'y comprend pas grand-chose. Il faut lire une seconde fois. continue de pas comprendre grand-chose. Là, c'est un livre qui nous dépasse complètement, mais qui est une richesse étonnante. Alors, quand vous aurez lu 50 fois l'Apocalypse, mais soigneusement, je lis l'Apocalypse depuis 1930. Et on découvre tout le temps quelque chose de nouveau. Tout le temps. Et il y avait, et dans sa vie, il faut avoir quelques grands axes. Qui en valent la peine, parce que si on prend des choses complètement idiotes et qu'on les relit 50 fois, on tombe dans un gagatisme avant l'âge. Tandis qu'au contraire, quand on prend des choses qui nous portent et qui nous conduisent, l'évangile de Saint Jean. Et l'évangile de Saint Jean, c'est quand même, je crois, la plus grande œuvre de toute l'écriture. Il n'y a pas moi qui dis ça seulement. Le Père Feuillet le dit. C'est ce qu'il y a de plus grand dans toute l'écriture. Le Père Feuillet est un très grand exégète. Et je crois qu'en effet, c'est ce qu'il y a de plus grand. Donc ça vaut la peine de le lire indéfiniment. Quand j'étais étudiant, on voyait très peu Saint Jean. L'Apocalypse, jamais. Jamais. Les exégètes commencent à dire « Oh, c'est tellement difficile à comprendre, c'est pas la peine. » On devrait dire l'inverse. C'est très difficile à comprendre, alors on s'y attaque. Vous voyez, avoir un peu d'irascible, quoi. Parce que l'irascible, on s'attaque à un bien difficile, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors on dit exprès des choses qui sont importantes. Alors, j'avais un professeur d'exégèse qui maintenant est mort. Bon exégète aussi, moins bon que le Père Feuillet, mais quand même bon. Trois heures sur Saint Jean, en tout et pour tout. Alors il commence comme ça. Surtout ne cherchez pas d'ordre dans l'évangile de Saint Jean. Quand on est jeune et qu'on entend ça, on se dit, il se trompe. Donc, on relève le défi. C'est pas, on est un peu irascible. Les professeurs, ça sert à deux choses. Susciter en nous de saintes colères pour montrer qu'ils se trompent. Et alors, à ce moment-là, on fonce. Ou au contraire, ah, oui, il y a des pistes intéressantes. Tiens, j'écoute. Et on s'appuie pour aller plus vite. Les professeurs sont des sycomores. Porte pour qu'on voit plus loin. Parce qu'ils sont quand même un peu plus compétents que nous dans les matières où ils enseignent. Normalement, c'est comme ça. Pas toujours. Alors, ce professeur continue en disant, tenez, je viens de recevoir la copie d'une dissertation d'étudiants. On m'appelle au téléphone, c'était du temps où il y avait un téléphone par étage. Donc, dans ces dates-là, 1932-33, je me précipite, je fais pas attention, ma fenêtre est grande ouverte. C'était le seul choix, tout près de tourner en Belgique. Quand je rentre, il y avait du vent, le vent de la mer du Nord. Ça s'en va dans tous les sens. Et l'étudiant avait oublié de paginer. Je lis chaque page intelligente. Mais je ne cherche pas l'ordre. C'est l'évangile de Jean. Alors vous voyez, tout de suite on se dit qu'il fait une grosse confusion. Le vent du Nord n'est pas le souffle de l'Esprit Saint. Parce qu'on sait, c'est dit dans l'Écriture, toutes les œuvres de Dieu sont mesurées, ordonnées, et il y a un poids. Mesure, poids et ordre. Or, lui-même, une fois m'a dit ça. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit Saint, la plus belle que nous ayons, c'est l'Évangile de Jean. Alors l'Évangile de Jean, qui serait l'œuvre par excellence du Saint-Esprit, n'implique pas d'ordre. Alors évidemment, vous voyez, il y a ordre et ordre. Il y a un ordre cartésien, logique. Tout bon français est un peu marqué par Descartes. Il en met du temps avant d'en sortir. Donc, il y a l'ordre logique, puis il y a l'ordre du cœur, l'ordre de la vie. C'est pas du tout la même chose. Et c'est très curieux, ça, du reste. Et cet adage merveilleux que saint Thomas répète à la suite d'Aristote, le propre du sage, c'est d'ordonner. C'est-à-dire le propre d'une intelligence contemplative qui atteint le sommet. Quand on atteint le sommet, on peut ordonner. Et c'est vrai. Et c'est normal que l'œuvre dernière de l'Esprit Saint, au point de vue de la révélation, l'Évangile de Jean, implique un ordre, mais très caché. Alors quand on entend ça et qu'on est jeune et qu'on a un tout petit peu une soif de vérité, on veut relever le défi. Mais c'est comme l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse est très ordonné, très différemment. À cause du livre 7, 7, 7. Mais il y a la même chose dans le livre de Jean, dans l'Évangile de Jean. Bonne exégète, je ne sais plus lequel avait une fois écrit ça, que le chiffre 7 était présent dans tout l'évangile de Jean. Sans dire comment. Et c'est vrai, le chiffre 7 est tout le temps présent dans saint Jean. De façon remarquable. C'est pas étonnant parce que Apocalypse et Jean se tiennent. Alors, vous voyez, il y a un ordre dans l'évangile de Jean, mais un ordre caché. Alors voyez ceci, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses disciples ce qui doit arriver bientôt. Et il l'a signifié par l'envoi de son ange à son disciple Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Alors cet ange, c'est qui? En réfléchissant, en priant, en demandant à l'Esprit Saint d'éclairer, on dit cet ange ne peut être que la reine des anges, Marie. Elle est la reine des prophètes. Alors vous ne croyez pas qu'elle est mobilisée pour Jean, puisqu'elle continue son action dans le ciel, pour l'aider à recevoir l'Apocalypse. C'est pas commode de recevoir l'Apocalypse, vous savez. C'est pas commode de lire quand vous êtes sous la douche et que vous recevez. J'aurais dû se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je deviens fou. Quand tu étais dans la grotte de Patmos, c'est quand même quelque chose d'étonnant à recevoir. Alors, je crois que Jésus l'a signifié, s'est servi de la médiation de Marie. Alors quand vous lisez l'Apocalypse, en comprenant ça, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent. Alors vous voyez, c'est là où on voit très bien combien il y a toujours quelque chose d'un peu énigmatique dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours prophétique et toujours un peu énigmatique parce que symbolique. Elle n'est pas adéquate au message. C'est évident que la parole humaine n'est pas adéquate au mystère de Dieu. La parole humaine est adéquate à des récits. Quand je vois des figures humaines, je peux paysage humain, je peux les décrire. C'est déjà pas si commode. Décrire ma vie intérieure, c'est beaucoup plus difficile. Décrire les liens d'amour, comme c'est difficile. Vous voyez, notre langage est très pauvre pour exprimer les liens d'amour. Quand il s'agit d'analyser, ah ça va. Alors, quand il s'agit de dire ce qu'il doit arriver bientôt, et le bientôt de Dieu, vous voyez, fait que quand je lis l'Apocalypse, c'est bientôt, c'était bientôt pour Jean et c'est bientôt pour moi. Et il y a presque 2000 ans entre deux. Alors là, vous commencez à comprendre ce que c'est que le bientôt de Dieu. Ça doit arriver bientôt. Et ça va arriver tout de suite. C'est le bientôt de Dieu. Et c'est le bientôt qui télescope 2000 ans. Alors, je crois, vous voyez, que de fait, on découvre progressivement, lentement, ce que Dieu veut nous dire. Et l'ange, c'est l'envoyé de Dieu, et ça peut être Marie, la reine des prophètes, la reine des anges. Alors, donc ça c'est la première chose. Donc les anges... Jean-Baptiste est un envoyé de Dieu pour le peuple d'Israël. Nous sommes tous les uns pour les autres des envoyés de Dieu. Quand on prêche, quand on fait une conférence, un peu de théologie, on essaie de communiquer la vérité. On est un envoyé de Dieu. Et vous êtes pour moi dans la mesure où vous écoutez un envoyé de Dieu. Dans la charité fraternelle, le prochain est toujours un envoyé de Dieu qu'il faut découvrir. Prenez la parabole du bon samaritain, c'est net. Vous voyez, alors on est tous des anges. Au point de vue mission, on est envoyés les uns pour les autres. Où trouve-t-on la création des anges? Les récits de création n'en parlent pas. Oui, les deux grands récits de la création n'en parlent pas, c'est sûr. Alors, il y a un récit dans l'Apocalypse qui montre les anges par myriades de myriades et qui montre qu'il y a eu un combat dans le ciel où Michaël a combattu le dragon. Et le dragon a été précipité sur la terre par Michaël. Oui, il nous a fait un beau cadeau. Parce que les anges, ayant perdu leur contemplation par orgueil, tu vois, les mauvais anges, ayant perdu leur contemplation, se sont précipités sur la terre. La terre, c'est le lieu de la non-contemplation, dans le langage de l'Apocalypse. Et le ciel, c'est le lieu de la contemplation. Les habitants de la terre, c'est ceux qui ont perdu le sens de la contemplation. Parce qu'il y a un symbolisme. C'est le lieu de la relativité, la terre. On le sait bien. Or, celui qui ne vit que de relativité ne découvre pas la contemplation. Il faut découvrir l'absolu. On ne contemple qu'une personne. Donc la création des anges n'est pas décrite. Et on comprend très bien pourquoi. La Bible nous est donnée, c'est pour nous. Et donc on laisse aux théologiens le soin de parler de la création des anges. Et Thomas d'Aquin est considéré comme le docteur angélique. Parce que c'est celui qui a donné le plus beau traité des anges parmi tous les pères de l'Église et tous les théologiens. Le plus beau traité des anges, c'est Thomas d'Aquin. C'est pour ça qu'on le nomme docteur angélique. Le péché de l'ange est alerté dans l'Écriture. encore une fois, d'une façon très sobre. Comment peut-on dire qu'ils ont été créés avant l'homme? Ah oui, ça oui, on peut le dire. C'est net. N'est qu'à regarder le récit de la Genèse. Qu'est-ce que vous voyez? Adam et Ève. Selon la Genèse, ils sont premiers. Je ne parle pas des difficultés de l'évolution et de la manière dont les savants parlent de la création de l'homme et de la femme. Et selon l'Écriture, c'est net. Or, il y a un troisième personnage qui apparaît soudainement. Et il apparaît comme quelqu'un qui n'en est pas à son premier coup. Le serpent. Et il est dit dans l'Apocalypse que le dragon, le grand dragon, c'est l'antique serpent. C'est l'adversaire. C'est celui qui est contre Dieu. C'est celui qui lutte contre Dieu. Donc, on voit bien que les anges ont été créés avant. Et si vous êtes attentif au prologue de l'évangile de Jean, vous voyez bien que les ténèbres existaient avant la création de l'homme. Et les ténèbres, c'est le monde du péché. Et les péchés angéliques sont des orages particulièrement forts. Et la foudre tombe avec une force étonnante. Langage symbolique, vous comprenez. Peut-on dire que la laïcité sont des effets de l'orgueil. L'un plus intellectuel, lié à un mystère de l'existence de Dieu ou à une culture scientifique, et l'autre plus volontaire et affectif. Dans le fanatisme religieux, il y a d'une part laïcité et fanatisme religieux. Alors, peut-on dire que laïcité est fait de l'orgueil, je présume, plus intellectuel, et l'autre, plus volontaire et affectif, le fanatisme, lié à une fausse piété et à un aspect plus psychologique. Oui, d'une certaine manière, c'est un sujet très grand, ça. Je vois très bien ce qu'on veut dire. Au fond, aujourd'hui, on est en face, d'une part, d'un esprit laïque. Mais laïque au sens très aigu, très pointu. L'homme veut sauver l'homme. L'homme prétend sauver l'homme. La dimension religieuse n'a rien à voir avec l'homme. Très bien regarder ça. Et je crois que ça existe. Et ça caractérise même la laïcité française. Ça existe beaucoup moins dans les autres pays. Mais c'est très curieux que chaque pays a dans sa culture un petit coin laïque. Aujourd'hui. Alors il y aurait le cocktail laïque européen qui serait assez curieux. Mais la laïcité en Autriche n'est pas la même que celle de la France, n'est pas la même que la laïcité du côté des pays anglo-saxons. C'est très très curieux ça. Ça provient de la culture et de l'histoire de chaque pays. Ça je crois. Et peut-être aussi d'une certaine dominium religieux qui ont appelé des réactions. Ce serait très intéressant à étudier ça. Je n'ose pas me lancer là-dedans. Le fanatisme religieux et aussi lui aussi une forme de destruction de l'asperlie. Dieu, c'est le Tout-Puissant avant tout, et non pas Dieu amour. Dieu, c'est celui qui fait trembler. C'est sûr qu'il y a deux aspects qui sont intéressants à regarder, mais je ne veux pas m'engager trop. Pourriez-vous préciser comment, dans le sacrifice de la croix, il y a un dépassement de la satisfaction par l'amour? Oui. Le sacrifice, c'est le regard de l'homme vers Dieu. La satisfaction, c'est l'homme, la satisfaction telle que je la regarde dans le Christ. C'est l'homme-Dieu qui prend sur lui toutes les conséquences du péché, tout le drame du péché, et aussi la dette que l'homme a encourue à l'égard de Dieu, puisqu'il a brisé l'alliance. Donc, du côté satisfaction, on part de l'homme vers Dieu. Du côté sacrifice, c'est le mystère de Dieu premier qui suscite un retour vers Dieu. Les deux impliquent un retour vers Dieu. Mais d'un côté, c'est Dieu, dans sa majesté. De l'autre côté, c'est Dieu blessé, dans son honneur, dans sa gloire. Vous voyez ? C'est pour qu'on comprenne bien qu'il y a un lien entre les deux, mais qu'il y a quand même quelque chose de très très différent. Le sacrifice, c'est l'adoration en esprit et en vérité. C'est l'adoration toute transformée par l'amour et qui réclame, quand il s'agit de la croix, la contemplation amoureuse de Dieu. Et le sacrifice le plus parfait, c'est de s'offrir à Dieu en état victimal, ce que Jésus fait. On offre ce qu'on a de plus précieux, soi-même. On donne à Dieu ce qu'on a de plus précieux, sa propre vie. Et on l'offre à Dieu. Et Dieu en fera ce qu'il veut. C'est, je crois, cela qui caractérise justement le sacrifice de la croix. Tous les autres sacrifices sont moindres que celui-là, puisque celui-là exprime quelque chose d'ultime dans l'ordre de l'amour. S'offrir, se donner. Donc, le sacrifice va mettre ce primat sur l'amour. La satisfaction implique une réparation à l'égard d'une injustice, une injustice personnelle à l'égard de l'honneur de Dieu. C'est une réparation, c'est beaucoup plus dans l'ordre de la justice. Alors on peut dire que le sacrifice a un lien plus immédiat avec l'amour que la satisfaction. Même quand cette satisfaction est portée par l'amour, transformée par l'amour, elle reste dans ce qu'elle est liée à la justice. Tandis que le sacrifice, dans ce qu'il est lié à l'amour. Je dirais que le sacrifice est substantiellement œuvre d'amour. et la satisfaction est substantiellement œuvre de justice et de réparation. Le sacrifice n'est pas toujours œuvre de réparation. Il y a des sacrifices de réparation. Mais le sacrifice est plus que ça. Il est le regard de la créature vis-à-vis du Créateur, qui sait qu'il n'est rien et que tout ce qu'il a de bon vient du Créateur. Et c'est pour ça qu'il peut tout remettre au Créateur et remettre sa propre vie entre les mains du Créateur, entre les mains de Dieu. Donc, c'est le pauvre, c'est la créature en tant que créature qui a jeté sa couronne, qui reconnaît sa dépendance radicale à l'égard de Dieu et qui lui remet tout. C'est pour ça que l'adoration et le sacrifice conduisent à cette attitude d'abandon et de remise totale entre les mains de Dieu. Tandis que la satisfaction, même quand elle est changée par l'amour, demeure toujours une œuvre de justice, de réparation. Vous voyez, il y a toute une dimension de l'amour substantiel dans le sacrifice, dans l'adoration, qu'on ne trouve pas dans la satisfaction. Mais la satisfaction peut être liée à une œuvre de sacrifice qui va plus loin que la satisfaction. Pourquoi, malgré le salut, restons capables de pécher avec les souffrances que cela entraîne? C'est justement ce que je voulais traiter maintenant. En quoi Dieu se sert-il du péché pour aller plus loin dans son don? Il y avait deux autres questions. Alors avant de répondre à ça, je regarde les deux autres questions d'hier qui étaient restées sans réponse. Est-ce que les anges souffrent? Dans la négative, est-ce que la matière, le corps, temple de l'esprit, est lié à la souffrance? Oui, alors ça dépend comment on comprend la souffrance. La souffrance humaine est sensible. Alors on peut dire que les anges peuvent connaître la tristesse. Et que les mauvais anges, les démons, connaissent la tristesse. Ils subissent une peine, la peine d'être séparés de Dieu. Pour un esprit pur qui était fait pour voir Dieu, c'est la peine la plus grande. Donc c'est source d'une très grande tristesse. C'est pour ça que le démon est toujours de mauvaise humeur. À cause de cette tristesse radicale. Oui, tristesse très profonde, angélique. Parce que les bons anges ne sont pas tristes. Et la souffrance, si vous ramenez la souffrance à la tristesse, vous voyez, la tristesse et la souffrance implique un manque. On est triste parce qu'il vous manque quelque chose. Le manque. On sait ce que c'est que c'est chez les toxicomanes. Hein. Le manque. C'est quelque chose qui prend dans le langage d'aujourd'hui une sorte d'acuité très grande. On s'habitue à quelque chose qui est un aliment. Puis subitement, on l'arrête, le sevrage. Aujourd'hui, on dit le manque. Avant, on disait le sevrage. C'est très curieux, les manières dont certains mots comme ça se transforment. Et ceci, c'est pour montrer justement une tristesse radicale devant laquelle on ne peut rien. Alors on dit le manque. On est tellement habitué, on s'habitue à la drogue, on est lié à la drogue, et il y a un esclavage de la drogue qui est très radical. Et ça devient un manque. On ne peut plus s'en séparer. Pas la peine de raisonner, on ne peut plus s'en séparer. On fera n'importe quoi. Alors on dit manque. Et le manque crée une tristesse, crée un appel radical, des gémissements. On gémit. Donc c'est une souffrance intérieure. C'est pas la souffrance sensible, celle du manque pour le toxicomane, oui, mais elle est très très profonde, elle est très radicale. Elle touche nos instincts. Très très curieux comme la drogue peut creuser en nous des capacités de tristesse, des capacités de souffrance qui étaient inconnues avant. C'est pour ça que je dis que c'est démoniaque. C'est le démon qui invente ça. Et le démon invente ça toujours pour diminuer l'homme. Et pour montrer à Dieu qu'il avait raison, il ne fallait pas créer l'homme à l'image de Dieu et à sa ressemblance. L'homme était incapable de vivre comme chef-d'œuvre de Dieu, donc il ne fallait pas le créer. Ça, c'est la grande tactique du démon. Hein. Montrer, puisqu'il est orgueilleux, le démon a la psychologie de l'orgueilleux. Or, l'orgueilleux ne cherche qu'une seule chose à montrer, c'est qu'il a raison. Quand vous me disiez que j'avais pas raison, je vous montre que j'ai raison. C'est vous qui ne voyez pas loin. Et le démon veut montrer à Dieu, encore actuellement, hein, le démon veut montrer à Dieu qu'il avait raison. Que l'homme, c'est chipi. C'est rien du tout. La bête. Rien du tout. Et que Dieu s'est complètement trompé. Il a cru. Oui, c'est l'œuvre du grand-père. Tandis que les anges, au moins, ça, c'était quelque chose. Tandis que Dieu a voulu créer son chef-d'œuvre après, quand il était déjà père. Et alors, c'est le grand-père, il se trompe. C'est très, très important de comprendre ça pour voir ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui n'est, du moins, le monde dans le sens où Saint Jean l'emploie. Pas toujours. Et dans la première épître. Là, c'est démoniaque, quoi, ce truc-là. Il faudrait faire ça un peu plus loin, ça. Héros de Tours, c'est amusant. Il y a des gens qu'on empoisonne comme ça. Alors. Le démon essaie de montrer à Dieu qu'il s'est trompé et que l'homme n'en vaut pas la peine. Et c'est pour ça qu'il essaie de détruire par l'orgueil. L'homme créé par Dieu comme chef-d'œuvre de Dieu proclame « Dieu n'existe pas ». Il y a eu, dans notre culture moderne, je dis ça en tant que philosophe, depuis 150 ans, cette grande forme d'athéisme, d'idéologie athée, ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Ça, je vous défie de le trouver. Et depuis 150 ans, il y a cette grande idéologie athée. Et le fruit de ces idéologies athées, c'est la laïcité. Dieu n'existe pas. L'ange déchu, Lucifer, est trop intelligent pour dire que Dieu n'existe pas. mais il fait dire au Benjamin, au pauvre petit dernier. C'est comme ça que ça se passe dans les grandes familles. Quand les aînés veulent dire quelque chose contre les parents, ils excitent les petits derniers. Alors ils disent ces gros mots aux parents. Ils savent pas ce qu'ils disent. Ils savent pas ce qu'ils disent. Et les aînés n'oseraient pas les dire. Et l'ange fait que l'homme, chef-d'œuvre de Dieu, proclame Dieu n'existe pas. C'est impossible qu'il existe. Oui, le fruit des idéologies athées dans l'homme. C'est pas l'homme qui dit ça. Il sait pas ce qu'il dit quand il dit ça. Vous voyez, dire que quelque chose qu'on ne connaît pas n'existe pas, c'est pas fameux. C'est pas intelligent. Quelque chose qu'on ne connaît pas. L'athée ne connaît pas ce que c'est que Dieu. Il dit n'existe pas. Faut les prendre comme ça, les athées. Alors, à ce moment-là, ils ne savent plus quoi dire. Mais vous dites que Dieu n'existe pas. Mais qu'est-ce que c'est que Dieu pour vous? Ah, je ne sais pas, il n'existe pas. Mais s'il n'existe pas, ne dites pas qu'il n'existe pas. C'est pas la peine de mettre toute votre vie à dire qu'il n'existe pas. S'il n'existe pas, mais laissez tranquille et vivez, quoi. Ils savent pas ce que c'est. Alors, il faut bien comprendre ça. Que le démon, il a un manque terrible. Il a le manque de Dieu. Parce que lui sait que Dieu existe. Il a un manque de Dieu. Et la peine qu'il subit, c'est qu'il prend conscience de ce manque. Mais son orgueil ne veut pas reconnaître cela. Et c'est pour ça qu'il vit dans le drame. Et qu'il aime mieux agiter des petits cochons que de rester seul. Ce passage de l'évangile, hein, c'est curieux. Le démon demande d'être l'agitateur des petits cochons plutôt que de rester seul. C'est un idéal extraordinaire, hein, pour un esprit. Et on comprend très bien ça, parce que c'est jamais drôle de rester face à son drame. Alors voyez ici ce drame. C'est une souffrance spirituelle. Oui, il y a une souffrance spirituelle, un manque. Pas une souffrance sensible. Alors, l'autre question, vous avez dit que la théologie, la recherche théologique, peut éloigner de la foi et de la vérité. Non, voyez, faisons attention, je ne parlais pas de la théologie, la recherche théologique. Je disais des jeunes étudiants. Hein? N'oubliez pas ça. Si on est saisi, séduit par l'évidence que donne la science, on peut très bien, à ce moment-là, ne plus mettre tout son effort sur la contemplation amoureuse de Dieu, à partir de la foi. Notre capital vital est limité. Donc il s'agit de bien le gérer, de bien l'ordonner. C'est ça, c'est le déséquilibre entre amour et recherche intellectuelle. Il semble l'inverse, tant mieux, que la recherche puisée en science, physique, biologie, amène les savants à reconnaître Dieu, à accepter son existence, à le sentir. Je ne suis pas absolument sûr. J'ai un petit exemple à vous dire. Très précis. Comme l'Église est absente du monde scientifique, comme le Christ est absent dans le monde scientifique. Je connais. C'est une petite histoire, alors ça sert de récréation. Bon. Et une histoire vraie. Il y a un biologiste qui, il y a 20 ans, a fondé l'Institut de la vie. 20-25 ans. Sachant très bien que les découvertes biologiques iraient très loin. Il a compris à ce moment-là, c'est lui qui me l'a dit, hein. C'est un ami. Il a compris à ce moment-là que ses recherches biologiques allant si loin, il y aurait un moment où, d'une certaine manière, l'homme serait maître de sa destinée. Il aurait un pouvoir, une autorité telle qu'il pourrait orienter l'espèce humaine. Il s'est dit, on n'a pas le droit de laisser des savants qui ne sont pas des sages régler le sort de l'humanité aux savants, aux biologistes, lui-même étant plongé dans le milieu biologiste et sachant combien ils sont matérialistes.
Session sur la rédemption, le 23 mai 1993, à Rimont, par le Père Philippe, 18e conférence.
À cette question posée, pourquoi malgré le salut, restons-nous capables de pécher avec les souffrances que cela entraîne. Bon, c'est ce très grand mystère de la prière de Jésus à l'agonie, je crois. Si on essaie de la comprendre, et je vous disais, c'est un second point très important pour nous, pour entrer dans le mystère de la rédemption. Dans lequel alors on est nous-mêmes directement engagés. Jésus demande à son Père que le calice soit éloigné. Alors il y a eu toute une série de commentaires divers sur ce passage, je comprends très bien. Je me demande, je dirais, c'est important puisque c'est l'écriture, mais même indépendamment de ce texte, le problème se pose, on l'a posé indépendamment du texte, de l'agonie. Mais si l'interprétation que je donne est juste, ça nous aide à mieux comprendre comment Jésus a vécu le mystère de la croix. Il y a la grande prière du Christ, ce que je vous disais dans l'homélie d'Amès, puisque c'est l'évangile du jour, la grande prière du Fils bien-aimé. Et c'est vraiment la prière du Fils bien-aimé. Il s'adresse au Père. Le calice exprime symboliquement la manière dont le mystère de la croix va se réaliser. Et ceci, je dirais, c'est le symbolisme même de ce mystère de la croix. Jésus l'emploie. Et vous le trouvez dans l'Apocalypse. Or, la croix se réalise de cette façon que Marie est au pied de la croix, ainsi que Jean. Ce qui signifie que le mystère de la croix s'achève dans le cœur de Marie, dans le cœur de Jean, dans le cœur de l'Église, dans notre propre cœur. La prophétie du vieillard Siméon à Marie, il sera un signe en but à la contradiction, et toi-même, les secrets des cœurs te seront révélés. Parce que son cœur est blessé, montre bien que ce qui est prophétisé pour le Christ est prophétisé pour Marie. C'est ce que dit saint Jean Eudes, qui avait un très grand amour pour Marie, pour le cœur de Marie lié au cœur de Jésus. Saint Jean Eudes a cette audace de dire que toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui regardent le Messie s'achèvent dans le cœur de Marie. Ça donne envie de toutes les étudier théologiquement pour comprendre le mystère de la compassion. Le mystère de la compassion, c'est Jésus qui associe Marie, sa mère, à son holocauste. C'est Jésus qui lui-même est source de souffrance, de douleur pour sa mère. Et vous savez que c'est cela qui est le plus dur à porter pour quelqu'un qui a un cœur noble, royal. Ce qui est plus dur, ce n'est pas de porter les souffrances qu'on endure, ses propres souffrances, mais c'est de porter les souffrances dont on est cause pour ceux qu'on aime. Vous voyez, une jeune religieuse qui entre au Carmel, à Saint Jean, et qui sait que son père ou sa mère ne peuvent pas accepter sa vocation, c'est cela qui est le plus dur pour elle. Parce qu'elle aime ses parents, et être source de souffrance pour ses parents, c'est ce qui est le plus dur. Pour Jésus, ce qui est le plus dur, c'est d'être source de souffrance pour Marie et pour Jean. Je crois qu'on peut le dire et qu'on doit le dire. Alors, associer Marie à la croix, c'est faire que la parole que Jésus dit, quand je serai attaché sur le bois, j'attirerai tout à moi. Et la première qui est attirée, c'est Marie. Jésus exerce, par la volonté du Père, une attraction sur le cœur de Marie, qui est unique, et qui blesse le cœur de Marie. Puisqu'elle est associée à toutes les souffrances de Jésus, à son martyr, à son état victimal. Alors, est-ce que, je pose la question, est-ce que ce n'est pas cela que Jésus demande au Père dans son agonie? Que le calice, tel qu'il est prévu, voulu par Dieu s'écarte. Parce que Jésus sait qu'il peut sauver tous les hommes en étant le seul à souffrir. La joie se partage, le pain se partage, mais la souffrance ne se partage pas quand on aime. On désire être seul à souffrir et soulager la personne qu'on aime. Jésus sait qu'il peut, puisque c'est lui qui sauve le monde. Que si Marie l'accompagne, si Marie vit le même mystère, c'est une surabondance d'amour. Ce n'est plus la justice. La justice, il est le seul à la porter. Alors, il demande au Père d'épargner Marie. Entre le Fils bien-aimé et le Père, il y a un langage qu'il faut comprendre. Mais chaque dialogue entre Jésus et Marie, qui nous sont racontés dans l'Évangile, Saint Jean et Saint Luc, sont toujours très difficiles à comprendre. Parce que plus on aime quelqu'un, plus on lui dit énormément de choses à mi-mot. Quand deux personnes ne se connaissent pas, il faut beaucoup d'explications. Autrement, on s'explique tout de suite. C'est pour ça que les dialogues entre Jésus et Marie sont toujours très abrupts. C'est cela, cette prière de Jésus. Il paraît que le Saint-Père l'a dit. Je serais très heureux si on retrouvait le texte. J'ai demandé à celui qui m'avait dit ça, il était incapable de dire où. J'ai dit, je crois bien que le Saint-Père a dit quelque chose comme ça. Parce que ça donnerait une autorité, vous voyez. Dans ce domaine-là, si on peut s'appuyer sur la parole du pape, c'est très bien. Ce ne serait plus une hypothèse, ce serait exposer la vérité. Moi, ça me semble être la vérité, ça. Et ça me semble la seule explication possible de cette prière. Parce que ce qui est le plus dur pour Jésus, c'est d'être source de souffrance pour sa mère. Il l'a été, cinquième mystère joyeux. Il l'a été au moment de la présentation de Marie au temple. Un signe en but à la contradiction. C'est pas drôle pour une mère de savoir que son fils sera un signe en but à la contradiction. Et à la croix, tout ça s'accomplit. Et c'est très grand. Si ceci est vrai, ça montre que Jésus, sachant la fragilité de la créature humaine, notre fragilité, et celle de Marie aussi. Il ne faut pas croire que Marie, elle est la femme forte, mais dans une terrible vulnérabilité. Et dans une très grande fragilité, de sensibilité. Ce sont ceux qui aiment le plus qui connaissent le mieux cette fragilité. L'amour nous fragilise et l'amour nous fortifie. Toujours les deux effets. Surtout dans l'ordre surnaturel et dans l'ordre. c'est vrai, même dans l'ordre humain. Alors on comprend, étant donné la noblesse du cœur de Jésus, cette noblesse royale, il est le roi de tous les hommes. Encore une fois, quand on est royal, on n'aime pas de communiquer à ceux qu'on aime, qui sont plus fragiles que nous, le poids de souffrance, de douleur qu'on porte. On ne voudrait partager que ce qu'il y a de positif, que l'amour. Et le Père veut que Marie soit là. Et le Père veut que Jean soit là. Et le Père veut que toute l'Église, à la suite de Marie, vive le mystère de compassion. C'est Nietzsche qui dit cette parole très forte. Il y a deux choses que je déteste chez les chrétiens. C'est la métaphysique et la compassion. C'est assez étonnant. J'avais lu ça dans le temps sans m'y arrêter. Et quand je l'ai relu après que la communauté Saint-Jean existe, j'ai dit, mais tiens, le Saint-Père nous demande de maintenir les études philosophiques le plus poussées qu'on peut, donc la métaphysique. Et la Vierge Marie nous demande, et à travers la petite Marthe, d'être très unis au mystère de la compassion de Marie. C'est étonnant, ça. Je crois que c'est les deux choses que Jean, que Saint Jean, nous demande. Et demande spécialement à l'Église aujourd'hui. C'est ce que le Saint-Père vit. Le mystère de la compassion. Et la recherche de la vérité. La recherche de la vérité pour aller jusqu'au bout. Découvrir la métaphysique, coûte que coûte, même si on n'en veut plus, tant pis. C'était le père d'eau qui me disait ça, mon oncle, mon vieil oncle, qui était presque aveugle. De sorte que j'ai fait la lecture de 6 ans à 40 ans. C'est quand même pas mal. Hein. Et il me disait, quand je faisais la lecture, certains textes de saint Thomas ou commentateurs de saint Thomas, il disait, je serai le seul au monde à écouter encore ces textes, je te dirai de continuer de me les lire. Peu importe que ce soit reçu ou pas reçu, si c'est la vérité. Pourquoi le Père veut-il que Marie soit au pied de la croix? C'est pour que l'alliance entre Marie et Jésus aille jusqu'au bout. Ce qu'il y a de plus secret dans l'Ancien Testament, c'est l'alliance de l'époux et de l'épouse proclamée dans le prophète Osée et chanter dans le Cantique des Cantiques. Et du prophète Osée au Cantique des Cantiques, c'est ça le leitmotiv le plus secret de tous les prophètes. Lisez le petit livre superfeuillé d'Osée au Cantique des Cantiques, l'alliance de l'époux et de l'épouse. C'est un petit livre magnifique. trésor. Si Marie n'avait pas été au pied de la croix, n'avait pas vécu le mystère de l'agonie, Marie aurait reçu tout de la croix du Christ, comme le chef-d'œuvre de la croix du Christ, mystère de l'Immaculée Conception. Elle est complètement sauvée, et radicalement sauvée. Vous voyez, c'est le désir qu'on aimait là. Et encore plus loin, puisque Marie a souffert. Mais justement, on aimerait nous retourner au paradis terrestre. Jésus a tout pardonné, qu'il nous remette dans le paradis terrestre. Là, il n'y aurait plus de parti politique. Il n'y aurait qu'un seul parti. Parti des amis de Dieu. On serait tous sous la mouvance de la royauté de Dieu. La croix ne nous a pas remis dans le paradis terrestre, bien qu'elle ait tout pardonné. Pourquoi ? Pourquoi ? Si Marie avait été uniquement celle qui recevait tout, sans vivre le mystère de la croix, elle ne serait pas la plus aimée. Elle n'aurait pas été jusqu'au bout de l'unité avec Jésus. Une épouse qui refuse de vivre les souffrances de son époux n'est plus l'épouse pleinement, totalement. L'amitié réclame d'avoir le même vouloir que l'ami, dans la joie comme dans l'épreuve, dans la joie comme dans la souffrance. Il faut porter ce que l'ami porte, il faut subir ce que l'ami subit. Il y a quelque chose de très grand dans cela. C'est l'amour, ça. L'amour est au-delà de la joie et de la souffrance. Et la souffrance se comprend dans la lumière de l'amour, comme la joie. Et quand on aime intensément quelqu'un, on veut lui être uni dans la joie. On veut lui être uni dans la souffrance. On ne peut pas opter seulement être uni dans la joie. Il faut être uni dans la joie et dans la souffrance. Ceci, c'est l'exigence de l'amour. Et ceci, c'est l'exigence de l'alliance de l'époux et de l'épouse. On comprend pourquoi il est toujours parlé de cette alliance de l'époux et de l'épouse. Parce que l'épouse est liée dans son corps. Il peut y avoir des amitiés entre philosophes. On est lié quant à l'esprit, quant à la recherche de vérité. Il peut y avoir des amitiés qui n'impliquent pas cette union dans le corps. Tandis que l'épouse, c'est son corps qui est donné à l'époux. Et l'épouse, c'est dans son corps qu'il est lié à l'épouse. Pas seulement cela, c'est bien évident. C'est d'abord une union spirituelle. Union amicale, d'amour. Mais cette union d'amour réclame cela pour qu'elle soit totale. Parce que nous sommes esprit et corps. Âme et corps. Alors, si entre Jésus et Marie, il y a cette union des ces épousailles mystérieuses, ces épousailles spirituelles, divines, qui impliquent une incarnation. Il faut que Marie suive Jésus, suive l'agneau jusqu'au calvaire, et qu'elle vive tout ce que Jésus vit au calvaire. Il faut qu'ils soient pétris l'un et l'autre dans le même amour et dans la même souffrance, selon deux modalités totalement différentes. La modalité violente de souffrance, de sang versé, la modalité toute intérieure, toute cachée, toute silencieuse, pour Marie, pour l'épouse. Si Marie est appelée par le Père à être associée à toutes les souffrances du Christ dans son mystère de compassion, elle peut apporter quelque chose et compléter le mystère de la rédemption. C'est ce qu'on dit quand on dit qu'elle est co-rédemptrice. Et tous ceux qui s'opposent à cela, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que le mystère de la rédemption est un mystère d'amour, et donc de surabondance d'amour. Et que Marie va apporter à Jésus quelque chose que Jésus ne peut pas souffrir, ne peut pas vivre. Alors ici, il faudrait faire appel, pour bien comprendre cela, à cette grande vision des pères de l'Église, de Thomas d'Aquin et de tous les théologiens jusqu'à notre siècle. Tous reconnaissent dans le Christ la vision béatifique. Tous, en grande majorité, vous voyez, suffrage universel. Tous reconnaissent que Jésus, dans son âme humaine, tout de suite, dès qu'elle est créée, elle subsiste dans le Verbe. Et elle est unie au corps. Et que cette âme reçoit une plénitude de grâce. Et cette plénitude de grâce est tellement parfaite qu'elle touche ce pourquoi elle est faite, sa fin. C'est-à-dire, l'âme humaine du Christ connaît tout de suite son terme. La vision béatifique. Si l'intelligence du Christ atteint son terme, la vision béatifique, il y a quelque chose dans l'intelligence humaine qui ne connaît pas la souffrance de la croix. Pour que la souffrance de la croix s'empare de l'humanité dans sa totalité, il était nécessaire qu'il y ait quelqu'un proche du Christ, lié au Christ selon cette alliance d'époux et d'épouse, et puisse vivre tout le mystère de Jésus, toute la souffrance du Christ, toute la tristesse du Christ, l'agonie, vivre toute cette souffrance et cette tristesse à travers sa foi, son espérance et sa charité. que Jésus, dans les sommets de son intelligence et dans les sommets de sa volonté, échappe à la souffrance, puisqu'il est dans la vision béatifique, pour que l'humanité soit entièrement transformée par le mystère de la rédemption, par le mystère de cette source unique d'amour, par ce don unique du Verbe de Dieu. Il faut que quelqu'un intimement uni à Jésus, mais vivant dans la foi et l'espérance, puisse offrir ce poids d'une âme vivant dans la foi et l'espérance, mais dans une intense charité, vivant le même mystère que le Christ, mais toutes ses souffrances, toutes ses douleurs, les portant dans l'obscurité de la foi. Et c'est ce qui se passe pour Marie. Marie vit tout le mystère de la croix du Christ à travers sa foi et son espérance. Dans sa foi et son espérance. Et c'est ce qui explique comment Jésus veut attirer vers lui Marie et Jean en leur communiquant ce qu'il y a de plus profond en lui, l'offrande de tous les mêmes au Père. Et cette offrande en Marie et en Jean se traduit à travers l'offrande de sa propre intelligence pour que la foi prenne tout. C'est là où on comprend comment Marie apporte à Jésus quelque chose de nouveau et complète, l'holocauste de la croix. Vous voyez, c'est là où le théologien doit scruter le plus, puisque c'est la nouvelle alliance qui se fait entre le cœur de Marie et le cœur de Jésus. C'est une nouvelle alliance entre le cœur de Marie, petit enfant de Dieu, l'intelligence de Marie à la croix est totalement offerte dans l'obscurité la plus grande. Marie n'a rien compris à la croix. Comprenez ce que je veux dire. Elle l'a aimé. Elle l'a vécu dans l'amour. Elle l'a vécu dans la foi. Dans une foi tout obscure. Son intelligence s'est tue. Elle n'avait qu'à se taire pour laisser passer devant l'amour. C'est, je crois, ce que nous devons comprendre dans ce mystère de compassion. Et ce mystère de compassion est très important pour nous, puisque c'est le même mystère que Dieu nous demande de vivre. Évidemment, avec une intensité moins grande que Marie, mais c'est le même mystère que Dieu demande à toute l'Église de porter. L'Église, c'est l'Église du crucifié. Et l'Église veut vivre de cette victoire du crucifié. Le Père veut que Marie soit associée à tout le mystère de la croix. Et par Marie, le Père veut que tous les chrétiens soient associés au mystère de la croix du Christ, à la suite de Marie, pour offrir leur intelligence que leur foi soit toujours plus forte, plus divine, et qu'ils soient davantage des fils du Christ. Donc vous voyez, on touche là un très grand mystère qui va très loin. Pourquoi le Père veut-il que chacun d'entre nous, tout le long de notre pèlerinage sur la terre, nous ayons à souffrir, à porter quelque chose du poids de l'iniquité du monde? C'est pour que nous soyons, à la suite de Marie, ceux qui coopèrent au mystère de la croix du Christ. Soyons pas seulement des enfants qui reçoivent tout gratuitement et qui souvent se gâtent eux-mêmes parce qu'ils reçoivent tout gratuitement. Que nous soyons des amis, des épouses du cœur du Christ. C'est-à-dire que nous acceptions de vivre ce qu'il vit pour le salut des hommes. Et Marie est la première à le vivre. Et elle l'a vécu plus pleinement que tous les autres. Alors, là s'ouvre, vous voyez, le mystère de la rédemption dans l'Église d'aujourd'hui, à travers les sacrements. Regardez le mystère de la rédemption en Marie, puisqu'elle en est le chef-d'œuvre. Alors il faut s'arrêter puisque c'est l'heure. On est encore conditionné par le temps. Un jour, nous ne le serons plus. Grâce à Dieu. Alors je vous remercie de la manière dont vous avez suivi, écouté, la manière dont nous avons ensemble essayé de vivre ce grand mystère. Et je terminerai en réclamant vos prières pour la communauté Saint-Jean et pour moi-même, puisque j'en ai un tout petit peu la responsabilité en face de Dieu. J'ai un tout petit peu parce qu'ils grandissent. Je vois la communauté Saint-Jean grandir, et plus elle grandit, j'ai envie de dire comme Saint Jean-Baptiste, plus ils grandissent, plus je dois me mettre, je dis pas au repos, parce que ça, mais entrer vite dans le ciel, n'est-ce pas ?